Notre émission de ce jour fait partie de notre série consacrée à une évocation de la guerre 1914-1918 à l'occasion de son centenaire. Aujourd'hui, je vous propose d'entendre une adaptation radiophonique de documents, des extraits de lettres du soldat Émile Nussbaum, dont vous allez pouvoir suivre le cheminement, les réflexions, les récits pendant un peu plus d'une année. Un parmi des millions d'autres, bien sûr, mais un destin, le sien, auquel vous serez peut-être vous aussi sensible. Émile Nussbaum est né le 7 mars 1887 à Créancey, en Haute-Marne. En 1914, il a 27 ans et il est caporal au 371e régiment d'infanterie. Il est marié et père d'une fillette à qui il pense beaucoup. Il écrit à sa sœur Eugénie, avec qui il est dans une grande complicité et intimité, et à qui il livre le plus profond de son être et de son vécu. Il évoque parfois son épouse dans ses courriers, son épouse qui s'appelle aussi Eugénie, d'où des confusions possibles à éviter. Émile Nussbaum chemine entre résignation et espoir, avec, chevillé au corps, l'amour de tous ses proches, comme sans doute presque tous les poilus pendant cette guerre.
Frangin, frangine, sitôt parti en éclaireur pour l'infini. Dites-moi si c'est nos pleurs, nos rancunes qui font comme des taches noires sur la lune. Est-ce qu'on emporte au paradis les mots d'amour qu'on s'est pas dit? Et une fois qu'on a lâché là-bas, est-ce qu'on peut réécrire son histoire? On n'efface pas comme de la craie tous les bobos, tous les secrets. On voit sa vie la bouche cousue, le cœur se glace. Ce qu'elle garde et puis ce qu'elle abandonne. Est-ce qu'ils finiront dans des trous noirs, les souvenirs qu'on voudrait pas avoir? Ou bien vont-ils au fond d'un puits, dans une mer couleur d'oubli? Est-ce qu'on peut y apprendre à nager, très loin, bien après qu'on n'ait plus pied? Je vous entends, frangin, frangine, vos cris, vos pas dans la cuisine. Avez-vous retrouvé votre enfance, l'ardoise magique où tout recommence? Avez-vous gardé le plus beau, trié les plus jolies photos? Fredonnez-vous d'anciennes chansons, de votre voix qui n'a plus de son? Amour, c'est un mystère que je chante ici sur la terre pour vous offrir du fond de la nuit tous les mots d'amour qu'on s'est pas dit.
août 1914, de la caserne d'Henrémont à Chaumont. Je pars aujourd'hui 3 août, je ne sais pas si je reviendrai. Je pense que tu ne feras pas de misère à Eugénie pour notre compte. J'ai une fille qui me ressemble. Cela te rappellera ton frère si tu ne le vois plus. Nous pensions profiter de l'arrêt du 15 août pour aller te voir, les circonstances en empêchent. Je t'écris de Chaumont et je confie ma lettre à l'hôtelière où je séjourne. Je ne sais pas quand tu la recevras, mais je te prie d'avoir ma fille en souvenir de son père. Je ne veux pas que tu fasses des sacrifices, mais au cas où elle ne pourrait pas te payer, d'oublier cette dette. Je t'embrasse plus fort que jamais et prie pour moi. Ton frère Émile. 6 novembre 1914, soit 3 mois plus tard. Chère sœur, je ne trouverai jamais assez de mots pour te remercier de ton utile cadeau, seulement je n'ai pas pu retenir mes larmes. J'attendais de tes nouvelles tous les jours, mais j'ai été surpris de ton envoi. Au moins, ce sera un souvenir. Si je reste, j'aurai quelque chose de toi. J'ai tout reçu en bon état. Passe-montagne, manchettes, chaussettes, chocolat, pain d'épices, bonbons et papier à lettres. Chère sœur, puisque tu veux des détails, je vais t'en donner. Je ne sais pas si ma lettre t'arrivera, mais je t'envoie une carte en même temps pour te remercier. Je t'ai parlé de la bataille de Mulhouse, de tout dire il m'est impossible. Je te dirai seulement que, poursuivi dans les rues depuis 11 heures du soir jusqu'à 1 heure du matin sans arrêt, où les balles nous déchiquetaient nos équipements, moi et 2 camarades, nous sommes tombés exténués sur un trottoir où, de 1 heure à 3 heures, nous avons fait le mort, car les patrouilles prussiennes passaient sans arrêt et, nous croyant morts, ils nous donnaient quelques coups de pied ou de crosses de fusil. On avait garde de bouger et vers les 3 heures au petit jour, les Prussiens ayant quitté Mulhouse, des civils nous ont ramassés et réconfortés. 2 régiments entiers ont été détruits dans cette bataille, et si nous avons échappé, c'est grâce au nombre de blessés et de morts qui encombraient les rues. Puis, dans la journée, à travers jardins et ruisseaux, nous nous sommes enfuis comme des fous, sans sac, nu-tête, seulement le fusil et l'équipement. Mes blessures aux pieds emplissaient de sang mes souliers. Blessures de fatigue, car je n'ai pas été touché par les balles. Depuis, tous mes ongles des pieds sont tombés. Ah, j'ai souffert des pieds. Heureusement que nous avons eu affaire à d'honnêtes gens, car il y a beaucoup de vrais Français dans cette jolie ville de Mulhouse. Tu vois le souvenir que j'en garde. Et depuis, si les obus éclatent quelquefois près de nous, ce n'est plus rien à comparer. Nous avons eu d'autres occasions d'entendre siffler les balles, mais ce n'était qu'une risée, car tu ne croirais pas ce que devient un homme en pareille passe. Un de mes camarades de ce jour maudit est mort depuis. Voilà, la guerre est près de nous, ce n'est pas l'ombre du Nord. Maudit soit ce Guillaume, mais surtout son entourage. Mais sois tranquille, j'ai du courage et de la haine. J'ai préféré faire le mort plutôt que d'être prisonnier. Je ferai mon devoir jusqu'au bout. J'ai une gentille mignonne qui ne verra peut-être plus son père, mais elle pourra dire qu'il est mort en français. J'ai bon espoir. Je te remercie infiniment et t'embrasse de tout cœur.
Me dessine un oiseau, un arbre au bord de l'eau, je ferai le soleil. Et moi, je la regarde une seconde et laisse ouvert le monde aux nouvelles de la veille. Elle dort dans un duvet de couleurs, en serrant sur son cœur son lapin sans oreille. Ce soir, je lui lirai Cendrillon ou l'histoire du grillon qui n'a jamais sommeil. Ma petite boule d'amour, au pantalon trop court, aux doigts pleins d'encre bleue. Ma petite boule d'amour, que tu gardes toujours ces étoiles dans les yeux. Pleure, elle va chercher sa chenille qui dort avec ses filles au pays des merveilles. Et moi, je lui remets ses chaussons ou lui chante une chanson qui parle d'une abeille. Elle danse, elle me dit je fais la mouche et j'essuie sur sa bouche un reste de groseille. Elle joue à la princesse endormie. Elle ne joue qu'à demi. Un baiser la réveille. Ma petite boule d'amour, au pantalon trop court, aux doigts pleins d'encre bleue. Ma petite boule d'amour, que tu gardes toujours, ces étoiles dans les yeux. Elle file et va son petit chemin en tenant par la main son lapin sans oreille. Et moi, je lui dessine un oiseau, un arbre au bord de l'eau, elle fera le soleil. Ma petite boule d'amour, au pantalon trop court, aux doigts pleins d'encre bleue. Ma petite boule d'amour, que tu gardes toujours, ces étoiles dans les yeux. Ma petite boule d'amour, au pantalon trop court, aux doigts pleins d'encre bleue. Ma petite boule d'amour, que tu gardes toujours, ces étoiles dans les yeux. Ma petite boule d'amour, au pantalon trop court, aux doigts pleins d'encre bleue. Ma petite boule d'amour, que tu gardes toujours, ces étoiles dans les yeux.
Le 25 décembre 1914, jour de Noël donc, chère sœur, à l'occasion du Nouvel An, je viens par cette carte te présenter mes meilleurs souhaits de bonheur et une heureuse santé.
Qui donc disait que vivre est une chanson, frangin, une chanson d'en mourir, et l'éternel refrain. Qui donc disait que vivre est une chanson, frangin, une chanson dont mourir est l'éternel refrain. Refrain d'adolescent qui voit mourir l'enfant couché sur le chaland un matin de printemps. Bientôt pourtant au port l'ado rejoint l'enfant dans sa petite mort, maintenant qu'il est grand. Et te voilà, frangin, rescapé de deux morts, 40 berges plus loin, et tu navigues encore. Qui donc disait que vivre est une chanson, frangin, une chanson dont mourir et l'éternel refrain. Ajoute des couplets à ta chanson, frangin, elle n'est pas terminée, il faut aller plus loin. Joue, oh joue bonheur, frangin, retrouve l'innocence, joue sans avoir demain, plonge dans l'insouciance. Quand t'étais gamin, qu'on se posait pas de questions, tu t'en souviens, frangin, de notre vieille chanson. On ne prend pas toujours que les bons trains, frangin, pourtant il fera jour demain, frangin, demain, frangin. Il faut jeter ta bouteille à la mer, frangin, il faut chanter et cesser d'être amer. Il faut tourner la page arriver sans te retourner. Poursuivre ton voyage contre vents et marées. Mais pas comme ça, frangin. Pas comme un naufragé. Des ruines plein les mains et le cœur écorché. Mais pas tout seul, frangin. Des brumes à ton regard. Et puis, au creux des reins, toujours la peur du noir. Regarde-moi, frangin. Il faut rester debout. Levez la tête, frangin. Il faut aller au bout. Et si tu le veux bien, au son du rossignol, demain, demain matin, je te donnerai l'envol. Mais tu souris, frangin, comme quand t'étais gamin, qu'on se posait pas de questions, comme quand t'étais gamin.
Janvier 1915. Chère sœur, je profite de notre repos pour te donner quelques détails sur ce que nous avons fait dernièrement. Tu dois avoir lu sur les journaux les combats d'Olspach et Cernay. Je ne t'en dirai rien car notre compagnie n'a pas eu l'honneur d'être bien engagée. Seulement, tu as lu celui du Burnhaupt, où, cette fois, nous avons pris quelque chose. Nous étions depuis 2 jours aux avant-postes quand nous avons reçu l'ordre d'attaquer le pays. Un bataillon de territorial devait nous faire le chemin, mais ces méridionaux s'en fichent. C'était eux qui devaient nous précéder. Donc le soir à 15h, l'ordre arrive d'attaquer le pays. Nous nous mettons en route sitôt relevés, et à la nuit, nous nous trouvons sur les tranchées Boche. Notre grosse artillerie avait bombardé le pays toute la soirée pour annoncer notre arrivée prochaine. Donc nous voilà sur les tranchées. Après quelques coups de fusil, nous en sommes maîtres. Nous faisons 23 prisonniers qui nous disent que le pays était évacué. Nous allons au pays. Les maisons, greniers, granges, écuries, tout est fouillé, on ne trouve rien. Un bataillon prend place à droite, un autre à gauche. Le troisième prend place, 2 compagnies au sud et 2 au village, soit la 22e et la 23e. Tout allait pour le mieux. On était content. Moi, pas. À un moment donné, on entend des cris et des coups de feu au pays. Ces sales rosses étaient tout bonnement dans les caves et devaient sortir à ce signal. Il était 00h30, il en sortait par centaines des caves. Nous étions 2 compagnies contre 1 régiment. À partir de ce moment, jusqu'au jour, ce fut un carnage, une tuerie épouvantable. Je ne pourrais pas te dire juste ce qui s'est passé. Seulement, le 11e que j'ai embroché m'a appelé « salope » en bon français. J'étais fou. Nous n'avions plus de cartouches. Je courus où je savais en trouver et je rapportais une caisse de cartouches que je distribuais au hasard à ceux que je trouvais. On marchait sur des cadavres, on se cachait comme on pouvait. Mais nous avons fait du bon travail. Je trouvais plusieurs blessés à l'ambulance, notre capitaine le premier, puis beaucoup d'autres. J'ai perdu mon sac, mon linge et de chers souvenirs. Mais tant pis. Et au jour, nous avons été obligés de reculer devant les forces boches. D'autres, sans succès, ont pris notre place. mais on n'a pas perdu le terrain. Depuis, j'ai été 3 jours étendu dans une ambulance. On croyait à ma folie. Mais aujourd'hui, c'est passé. Je tremble encore, mais c'est passé. Nous ne sommes plus que 3 sur 14. Je suis cité à l'ordre du jour et je suis nommé caporal. Triste honneur. Mais ce qu'on fait n'est pas à cette intention. Et puis, il fallait que je me venge des coups de pied et de crosse que j'avais reçus à Mulhouse le 9 août. Nous avons perdu beaucoup, et depuis nous sommes en repos, en attendant que le régiment soit complété. Puis nous verrons, peut-être nous resterons un peu tranquilles. J'ai reçu un éclat d'obus dans l'épaule au début de décembre. Je n'ai pas eu grand-chose et j'en suis bien guéri. J'ai de jolis souvenirs de la guerre, si j'en reviens. J'ai une bonne étoile et beaucoup pris pour moi. Malgré que, très pauvre, je laisse mon prêt, soit 2,2 tous les 10 jours, aux veuves du régiment, car nous avons une caisse de secours que les veuves reçoivent selon la richesse de la caisse. Je regrette notre pauvre capitaine. Il n'est pas grièvement blessé, mais on n'est pas sûr de le revoir. Mes meilleurs copains sont restés aussi. Je ressemble, me dit-on, à un corps sans âme. Mes pauvres chéris, aurais-je le bonheur de les revoir? Malgré tout, j'ai bon espoir. Et je termine ma lettre en t'embrassant de tout cœur. Émile. 26 janvier 1915. Chère sœur, je reçois ta lettre du 21 janvier qui me fait grand plaisir. Tu me dis que c'est beau ce que j'ai fait. Avant le combat, on me l'aurait dit que je ne l'aurais pas cru. Je ne croyais pas qu'on pouvait faire cela sans être tué ou blessé. Tu me dis que l'instituteur a vu ma lettre et qu'il dit qu'elle mérite d'être signalée. Je ne veux pas qu'il le fasse. Je laisse cet honneur à notre capitaine qui vient de me l'écrire. Et puis, je ne veux pas qu'on parle de moi dans les journaux. Mais néanmoins, je le remercie de ses félicitations.
11 mai 1915,
4 mois plus tard donc. Chère sœur, nous sommes dans les montagnes et dans un endroit très reculé. Nos vivres nous arrivent à dos de mulet. C'est très pénible car ces montagnes sont à pic et où nous sommes, c'est un lieu de désolation et de dégoût. Il n'y a plus d'arbres debout, tout est brisé et je crois que le Petit Parisien et le journal ont fait paraître une vue d'ici. Je ne peux pas te dire le nom, mais je pense que tu comprendras. Je t'écris du fond de notre tranchée, car on ne se montre pas. Par endroits, nous sommes à 7 mètres l'un de l'autre, mais la moyenne est de 50 mètres. Et les coups de fusil et les grenades font rage, sans compter le canon qui ne cesse. Aujourd'hui, on ne l'entend pas. Ce n'est pas de bon augure, et je voudrais bien être à demain. C'est corps à corps à chaque instant et la nuit finissent par vous dégoûter. Ce n'est pas que j'ai peur, mais l'ennui est qu'on n'avance presque pas. Et cela coûte très cher. Par endroits, l'air est empesté. Et à chaque instant, en creusant nos tranchées ou en creusant nos gourbis, on trouve un cadavre ou quelques fragments. Ce n'est pas agréable. Pourvu que nous n'y soyons plus pour les fortes chaleurs, car on ne pourrait pas y résister. Non loin de nous, il y a 1200 cadavres allemands sur le sol depuis quelque temps. Tu vois l'odeur. Dernière nouvelle, il paraît que l'Italie va marcher. Peut-être que cela avancera les choses. Remercie Louisette pour son gentil muguet et donne le bonjour à toute la famille. Je termine en te remerciant et en t'embrassant de tout cœur pour la vie. Ton frère Émile. 12 mai 1915, sa citation à l'armée. Le 12 mai, bien que blessé, a fait preuve d'une superbe énergie et d'un bon dévouement en refusant de se laisser soigner avant que tous les blessés de son escouade aient été pansés. 18 mai 1915, Wesserling. Chère sœur, je t'ai envoyé une carte le lendemain de ma blessure. Je pense que tu l'as reçue. Je t'avais envoyé une lettre quelques jours avant, dans laquelle je prévoyais une attaque pour la nuit. Nous l'avons eue en effet, et une autre le lendemain, et toujours à la baïonnette. Les deux fois, nous avons progressé, et les Boches furieux nous ont bombardés le mercredi toute la journée, quelques 1000 obus. Tout était démoli autour de nous. Nos pauvres petites tranchées volaient toutes de tous côtés. Et c'est seulement le soir vers 20h30 que les derniers obus nous firent le plus de mal. Toute mon escouade est blessée. Moins deux, pas très grièvement, mais tous à la tête. Ce n'était pas agréable et on gardera un bon souvenir de l'Hartmann-Wehlerkopf. Ma blessure n'est pas grave. Elle m'a fait perdre beaucoup de sang et je souffre toujours autant. Ce matin, on m'a retiré un petit éclat, mais je pense que d'ici 8 jours, ce sera fini. Et sans convalescence, je retournerai à ma compagnie. J'en étais quitte pour la peur, car quelques centimètres plus bas, j'en avais assez. Il faut croire que ce n'était pas mon heure. Je t'embrasse de tout cœur. Émile. 9 juin 1915. Chère sœur, je profite que je suis de garde et que j'ai le temps pour t'envoyer une plus longue lettre que d'habitude. Je pense que vous avez beaucoup de travail en ce moment et que le beau temps doit bien vous aider. Ce soir, il fait un orage violent et les éclairs et le tonnerre font plus de bruit que tous les canons d'Alsace. J'ai encore appris qu'Albert était blessé, encore une fois depuis le 26 mai par un éclat d'obus à la jambe. Il n'a vraiment pas de chance, mais peut-être que cette fois c'est la dernière, car j'ai la conviction qu'il ne partira plus. On peut bien le laisser en repos maintenant. Il y en a assez qui n'ont jamais entendu siffler les balles ni éclater les obus. On n'a qu'à les faire marcher, ce n'est pas toujours au même d'aller à la boucherie, car à la fin, on en a assez de ces carnages qui vous dégoûtent et vous rendent fou pendant quelques jours. Il serait temps que cela finisse. Pour trop peu de terrain que l'on prend ou que l'on veut prendre, il faut laisser trop d'hommes. Nous avons tout vu au vieil Armand. Nous en avons eu de ces boucheries où on ne peut même pas enterrer les morts, car beaucoup restent entre les deux lignes et c'est impossible de les enlever. Par endroits, on se trouvait de 3 à 6 mètres, dans l'autre à 15 ou 25 mètres. En dernier lieu, cela n'avait rien d'amusant et les grenades faisaient rage d'un côté et de l'autre, sans compter les autres engins plus ou moins destructeurs. Je t'assure que j'ai été bien content le jour où nous avons quitté. Et, de ce moment, nous sommes en repos dans un pays qui n'a rien d'agréable, mais on est plus tranquille. Tout est hors de prix. On paie le lait 0,25 et les œufs 3 ou 4 sous pièce. Seul le vin n'est pas cher, 0,45 le litre. C'est vrai, ils n'ont pas le droit de le vendre plus cher. Ils mériteraient plutôt une balle que d'être payés, en grande partie, nos frères d'Alsace. Toutefois, pour cette bagatelle du 12 mai, j'ai eu le plaisir d'être cité à l'ordre du jour de l'armée et je pense avoir d'ici peu la croix de guerre. Je savais bien que j'étais proposé, mais c'était la 3e fois. Je ne pensais pas y être. C'est toujours une petite satisfaction. C'est vrai que cela ne rapporte rien. Pour le moment, je suis assez bien. Je fais ce que je peux pour remplacer le sang perdu, mais les chaleurs ne me laissent que la peau. Je reçois mes lettres assez régulièrement ces temps-ci. J'ai été 12 jours de suite sans rien recevoir. Mais le service fonctionne un peu mieux. C'est tout ce que nous avons de bon. En attendant la fin de cette guerre et le moment de vous retrouver tous, je t'embrasse de tout cœur. Ton frère, qui pense souvent à vous tous. Émile. 12 juillet 1915. Chère sœur, j'ai reçu ta lettre ce matin, ce qui m'a fait grand plaisir. Surtout de savoir que tu fais ton possible pour économiser et m'envoyer à chaque instant colis et argent. J'envoie une carte à Louisette, mais aussi pour les détails, ce n'est plus possible. Nos lettres sont sévèrement contrôlées et les punitions ne manquent pas. Mais tout n'est pas rose. Nous avons eu de terribles bombardements sans grande perte. Ce sont de tristes moments à passer. Où nous étions ces jours derniers, tout nous tombait sur le dos. Obus, grenades, torpilles, crapouillots, sans compter les balles qui sifflent. C'est un véritable enfer. Mais où nous sommes, nous nous reposons. Pas très loin de nous, le canon n'a pas cessé de la journée de samedi. C'était épouvantable et cela ne prend pas la tournure de finir. Voilà bientôt un an et je pense que nous ferons une campagne d'hiver. Seulement, nous ne sommes pas trop malheureux. Nous sommes bien nourris et nous avons du vin. Ce n'est pas mal, mais nous n'avons pas trop chaud. Toujours un vent plutôt violent. Que sera cet hiver ? Nous sommes très haut, 1476 mètres d'altitude. Je t'envoie cette fleur en souvenir, c'est une digitale. Je crois que je vais être obligé de me faire rouvrir ma plaie en haut de la tempe, car depuis quelques jours, il se ramasse une bosse comme moitié d'un œuf, ce qui me donne de forts maux de tête. D'ici quelques jours, je verrai ce que cela fera. Je te remercie de tout cœur et je t'embrasse bien fort, Émile. 3 octobre 1915. Chère sœur, je viens par cette lettre t'apprendre une nouvelle qui ne te fera pas trop plaisir. Notre régiment, avec bien d'autres, fait partie du corps expéditionnaire d'Orient. Nous sommes pour le moment à Meximieux en repos, où on nous vaccine contre le choléra et où on nous habille et équipe à neuf. Nous allons y rester 4 ou 5 jours. Et de là, nous serons dirigés sur Marseille et embarqués pour la Serbie. Tu vois la chance, faire 14 mois de guerre ici et après aller si loin. Enfin, c'est la destinée. Je ne t'en mets pas plus long cette fois, mais je te promets une plus longue lettre avant de quitter la France. Je termine en t'embrassant de tout cœur. Émile. 5 octobre 1915, 2 jours après. Lay. Chère sœur, nous nous attendons à partir d'un jour à l'autre. Avant de partir, je te prierai, au cas où je ne rentrerai pas, de faire ton possible pour adoucir le chagrin à ma femme, et au cas où elle ne survivrait pas, de tâcher que notre cher petit ange ne soit pas une malheureuse. Je sais que je te demande beaucoup, mais si tu en étais réduite à cela, elle ne serait à ta charge. Ses oncles et tantes du côté d'Eugénie auront peut-être assez de cœur pour ne pas la dépouiller, et vous seriez là pour soutenir ses intérêts. Ce n'est pas sans un grand serrement de cœur que je t'écris ces quelques lignes, mais je partirai plus soulagé de la savoir protégée. Je t'avais demandé ta photo, mais maintenant il me faut partir sans le plaisir de la voir. Il y a beaucoup de femmes ici, venues pour voir leur mari. Moi, je n'ai pas osé la faire venir, et je craignais la séparation. Décide ma femme à aller vous voir. Cela la distraira toujours. Moi, je fais tout mon possible pour cela. Je vais maintenant fermer ma lettre, en te priant d'accepter toutes mes tendresses. Je t'embrasse de tout cœur pour la vie. Ton Émile. 12 octobre 1915, Salonique. Arrivé ce matin en bonne santé. Bonjour à tous. Émile. 17 novembre 1915, un peu plus d'un mois après donc, Palikoura. Chère sœur, aujourd'hui nous sommes assez tranquilles sur les bords de la Kréna et nous en avons profité pour nous nettoyer car il fait un temps superbe. J'ai reçu des courriers, ce qui donne un peu de courage, et fait trouver le temps moins long. Ici, nous n'avons que cela pour nous faire plaisir, et je me dépêche de répondre un peu à tous. Je suis heureux que vous trouviez notre chère mignonne jolie et surtout gentille. Moi, je n'aurai pas le bonheur de la voir à l'époque où je le désirais tant. Mais il faut se résigner. Je termine avec l'espoir que ma lettre te trouvera en bonne santé. Je t'embrasse de tout cœur et pour la vie. Émile. Le 24 novembre, une semaine après ce courrier, Émile Nussbaum décédait à l'ambulance de Krivolar en Serbie. Ainsi, son pressentiment de sa lettre du 3 ou 14 se trouvait réalisé. Je ne sais pas si je reviendrai.
« la mer sur le rocher, le vent sur le clocher, le vase renversé, la lampe prise pour cible, le fil de la pensée, la phrase inachevée, la voix désespérée et la corde sensible, tout se brise, tout se brise. Le marbre profané, la tombe délaissée, l'os du supplicié, larmes dans la plaie vive, les tuiles envolées et l'amour déchiré, l'arbre déraciné, la barque à la dérive, tout se brise, tout se brise. Nos plus belles pensées, nos plus belles idées, rêves d'humanité et nos voix insoumises, le chant d'égalité et de fraternité, le cri du révolté, cœur nu sous la chemise, tout se brise, tout se brise. Notre orgueil insensé, nos armures déglinguées, la mort tant redoutée qui nous prend par surprise, nos crânes désertés, nos combats oubliés, nos passions dénouées, un jour tout s'égalise, douce brise, douce brise.
Ainsi se termine cette évocation radiophonique consacrée au soldat Émile Nussbaum à travers des extraits de ses lettres à sa sœur. Émile Nussbaum, un parmi des millions d'autres bien sûr, mais un destin, le sien, auquel vous avez peut-être été sensible au fil des enchevêtrements entre ses sentiments, ses actions, leurs conséquences sur lui et son attachement à ses proches, ainsi que son infuriation à ce qu'il estime être son devoir. Vous avez pu entendre successivement les morceaux suivants. La chanson « Frangin, frangine » de et par Michel Bernard, puis c'est « Géant » qui chantait sur les paroles et musiques de Gilbert Lafaye, « Boule d'amour ». Ensuite, Marie Havez interprétait sa composition « Paroles et musique frangin ». Et enfin, c'est Pierre Delorme qui chantait « Tout se brise », une chanson dont il a écrit les paroles et la musique.
Les champs de bataille sont de grandes étendues de terre avec des collines, des prairies et des bosquets, avec des villages qui voient éclater les pierres de leurs pauvres maisons, les bois de leurs enclos et les toits de leurs églises. Le silence des champs de bataille est d'une qualité particulière. Avant, il est gorgé de peur, après, il est lourd de honte. Et tout le temps, il est déchiré par les cris des oiseaux.
Noir dans la neige, les corbeaux, noir dans la neige, les corbeaux, attendent les morts sans tombeau, attendent les morts sans tombeau. en cercle se pressant, il tourne croissant. De partout à la ronde, vive le son, vive le son. La guerre approche et gronde, vive le son du canon. Les coteaux auront au beau temps, les coteaux auront au beau temps. Moins de fleurs que de combattants, moins de fleurs que de combattants. D'un sang jeune empourpré, pour herbe les grands prés. Auront des baïonnettes, vive le son, vive le son. Adieu les alouettes, vive le son du canon. Les bois par les obus brisés, les bois par les obus brisés. Seront sans oiseaux, sans baisers, seront sans oiseaux, sans baisers. Où l'amour coulait, passera le boulet. Sous les feuilles nouvelles, vive le son, vive le son. Jailliront les cervelles, vive le son du canon. Dès l'aube à l'abri des combats, dès l'aube à l'abri des combats. Dans l'azur loin des cris d'en bas, dans l'azur loin des cris d'en bas. Au ciel formant des ronds, corbeaux planeront. Sans craindre la mitraille, vive le son, vive le son. Nous verrons la bataille, vive le son du canon. Puis le soir lorsque les prés verts, puis le soir lorsque les prés verts. De cadavres seront couverts, de cadavres seront couverts. Grave, nous attendrons l'ombre et nous descendrons. Sur le champ solitaire, vive le son, vive le son. Mangez les morts par terre, vive le son du canon. Nous leur mangerons tout joyeux, nous leur mangerons tout joyeux. Le ventre, la tête et les yeux, le ventre, la tête et les yeux. Corbeaux, tenons-nous prêts pour le temps des cyprès. Au loin, l'horizon bouge, vive le son, vive le son. Voici le printemps rouge, vive le son du canon.
Vous venez d'entendre La Carmagnole des Corbeaux, un texte de Jules Jouy sur l'air de La Carmagnole, interprété par Simone Bartel. Vous entendrez plus tard la triste chanson de Jacques de Boncart qu'il interprète lui-même. Pour poursuivre et terminer cette émission, nous vous proposons d'entendre un autre témoignage, celui du sergent Jean-Marie Chaubet du 81e régiment d'infanterie. Jean-Marie Chaubet est un engagé volontaire en octobre 1913. Il décédera au combat à Lunéville le 22 août 1914. La guerre aura donc été courte pour lui. Voici quelques extraits de son carnet de guerre. Le jeudi 4 août vers les 11h, les gendarmes viennent me chercher. Nous étions 6 permissionnaires au village. Toute la population était concernée. Nos parents, les yeux en larmes, nous accompagnent. Je pars sans pouvoir embrasser ma mère qui se trouvait à Perpignan. Le 6 août 1914, nous nous levons à 1h50. Je pars à l'équipe d'embarquement. Je trouve ma mère devant mon cantonnement. Elle va vers la gare Rondelet. Là, j'y passe pour prendre mon paquet, car nous embarquons à la gare d'Arennes. Ma mère y vient, mais je ne l'y vois pas. Nous partons de Montpellier à 5h40. La foule nous ovationne dans toutes les gares que nous traversons et nous apporte des fleurs ou de quoi manger. À la gare du Teil, on nous offre du café et nous achetons un drapeau sur lequel est inscrit ces quelques mots « Honneur Patrie, 81e, 2e section, 12e compagnie ». Nous jurons qu'il ira à Berlin. Nous arrivons le soir à Lyon. Le 10 août, nous quittons Aigneville et nous recevons l'ordre de marcher sur Lunéville. Le 14 août, nous quittons Jolivet. Nous nous dirigeons vers le bois qui était occupé par les Allemands. Nous le traversons en forêt de pins sous bois. Enfin, nous en sortons et nous allons nous établir sur une crête. Tout à coup, le canon allemand commence à repérer son tir. Tout à coup, le nôtre répond. Alors commence un duel d'artillerie. Un obus éclate à nos pieds, un autre un peu plus loin. Là, les cris commencent, il y a des camarades blessés. Je descends vers le bas-fond. Là, un sapeur a la jambe coupée par un éclat d'obus. Un homme de ma section, Barthez, a un trou au genou. 16 août. Nous recevons l'ordre de marcher sur Vaucourt. Après avoir traversé de nombreux champs, nous arrivons en vue du village. Les maisons sont brûlées. 18 août à 2 heures. On nous réveille pour nous dire de nous tenir prêts à prendre les armes. Ma section prend le piquet à 3 heures. On vient réveiller nos brancardiers pour aller ramasser et soigner les blessés de deux autres régiments. Il y a beaucoup de blessés et de morts. Nous quittons le village. La fusillade crépite et le canon tonne toujours. Le 19 août, nous restons sur les positions abritées derrière la tranchée. Les Allemands font leur apparition à 9 heures. On fait un feu. Den vient nous dire que le maire de Siflig et le garde champêtre vont être fusillés car ils ont été trouvés en train de téléphoner le mouvement de nos troupes à l'ennemi. 20 août, à 2 heures, nous faisons un café pour la section. Au soleil levant commencent les premiers coups de feu. Nous sommes attaqués par l'armée allemande. Nous prenons des formations de combat. Des balles égarées sifflent à nos oreilles. Dans son carnet figure ensuite ce message à la jeune femme dont il est amoureux. Message Marie-Pauline. Marie-Pauline, nom si doux pour moi. Vous résonnez souvent à mes oreilles. Vos images interviennent souvent à mes yeux, ainsi que mon petit père chéri. Oui, je vais faire mon devoir. Je vous ai aimés tous les trois. Vous deux, père et mère, vous donnâtes le jour. Je vous ai toujours aimé. Je m'accuse de vous avoir fait de la peine, mais aujourd'hui je vais par ma conduite racheter tout cela. Et toi, Pauline, ma fiancée de demain, toi que j'aime, toi seule, mon cœur t'appartient. Pour toi, j'aurais fait bien des choses. Ta lettre d'avant-hier, je la relis à tout moment. Je vois en elle que tu as compris mon amour. Tu me dis, fais ton devoir et puis espère. Je jure sur notre amour que je ferai tout ce que tu me demandes. Et si Dieu veut que je sorte sain et sauf de cette lutte contre ces barbares germains, eh bien, Pauline, Dieu bénira notre union et nos enfants vivront sous sa protection. Mais s'il m'arrive malheur, ô Pauline chérie, mon amour sera éternel. Il me suivra dans la tombe. Sois heureuse avec celui qui sera ton mari. Moi, des cieux, je prierai Dieu pour que tu rencontres un mari qui t'aime comme moi. Ma demande, Pauline, pour ton premier enfant est que tu lui donnes le nom de Jean. Voici tout ce que je te demande. Encore, sois bonne pour ma mère chérie. Console-la, elle t'aime aussi. Elle aurait été heureuse de t'appeler sa fille. Le canon tonne. Adieu, mes trois êtres aimés. Soyez fortes, mes deux qui me restent s'il m'arrive malheur. Baiser. Jeannot. On ressent fortement dans ce texte que l'auteur n'a pas trop d'illusions sur ce qui va lui arriver dans la guerre qu'il est en train de mener. Suite du carnet. Nous changeons de position, notre corps se replie, l'armée part en désordre. Le 81e a perdu une partie de son effectif. Les capitaines Joyeux, Roilescure et un grand nombre d'officiers ont disparu. Le 143e est réduit au tiers. Le 53e perd son colonel et un nombre d'hommes. Le 15e aussi. Nous quittons nos positions. C'est une débâcle terrible sur la route qui conduit à Mézières. Qui fut si riante pour aller. C'est bien triste pour le retour. Les convois partent en désordre. La cavalerie, l'artillerie, le génie, l'infanterie, tout se mélange. C'est un désordre sans nom. Nous allons nous poster au-dessus du village de Mézières. J'ai eu une lettre de maman, je suis très heureux. Nous couchons à la belle étoile. Nous sommes très fatigués de la journée. 21 août 1914. Le 21 août, le soleil se lève radieux, et nous, les petits soldats français, les fils de ces Gaulois, nous reprenons courage. Mot pour Pauline. Pauline, mon amour, comme je t'aime, toi seule as su captiver mon cœur. Je reprends courage chaque jour, ton image me suit tout le temps. Mon amour, tu ne peux comprendre mon amour. Chaque heure et chaque moment, je ne vois que toi et mes deux parents. Vous êtes mes soutiens, mes petits chéris. Dieu m'accorde la force de vous revoir. Nous reprenons la lecture des carnets. Nous traversons bien des prés à la hâte, c'est très fatigant. En plus de mon sac, je porte celui du caporal d'ordinaire. Nous traversons ce soir la frontière. On voit se détacher des champs une tache sombre. Saluez tous, car c'est un endroit sacré. Là reposent nos frères tués la journée du 14. Ils sont morts pour la France, et demain nous les rejoindrons. Nous faisons une petite halte dans un bosquet, mais là se produit une petite scène qui aurait pu tourner mal. Les trois frères Goubert étaient en train de manger une boîte de conserve. Le capitaine donne l'ordre au sergent de lui donner la boîte. Celui-ci lui donne, le capitaine la jette. Il donne l'ordre au sergent d'aller lui chercher la boîte, et quand il la lui a apportée, il la lui fait jeter. Ce sergent demande à causer au commandant. Le capitaine dit « Oui, vous voulez causer au commandant ?»« Eh bien, tenez !» Il prend son revolver et l'arme dessus le lieutenant Brun. Les trois frères Goubert se jettent sur lui et lui enlèvent l'arme des mains. Le lieutenant ne se trouve pas bien. Je le soutiens et lui fais avaler un peu d'eau-de-vie. Il se met à pleurer. Le capitaine est abattu. Donc, Jean-Marie Chaubet a été témoin de l'assassinat d'un capitaine par un des soldats qu'il insultait et menaçait. Nous rentrons à Lunéville. Il est très tard. Nous sommes très fatigués. 22 août 1914. Le 22 août, le patron de la maison vient nous réveiller, car il y a un dirigeable allemand qui passe. En effet, on entend le moteur et on lui tire dessus. Nous touchons nos vestes et nous chaussons nos brodequins. Ce sont les derniers mots du carnet. Le journal de marche du 81e régiment d'infanterie fait état pour ce jour-là de 1300 hommes blessés, tués ou disparus. Le sergent Jean-Marie Chaubet était du nombre des tués. À la fin du carnet, après bien des pages blanches, figurait ce texte comme dernière lettre du soldat. « Ma petite mère chérie, lorsque tu recevras ce carnet, tu apprendras le nouveau malheur qui te frappe. Dieu t'a ravi, petit père. Le 5 octobre, là, tous les trois, nous étions heureux. Petit père avait été nommé à Perpignan et moi sergent. Comme nous étions contents. Mais Dieu t'a frappé et à ton fils aussi. Aujourd'hui, c'est moi. Sois content, car j'aurai accompli mon devoir de français. Te souvient-il, quand je me suis engagé, comme tu as pleuré? Eh bien, aujourd'hui aussi, tu vas verser des larmes. Comme je suis peiné de t'avoir fait de la peine pendant les jours que j'ai vécu avec toi, qui sera ton soutien à présent? Eh bien, petite mère, je te répète les paroles de papa. Va dans un couvent, là tu pourras prier pour nous deux, et quand Dieu te prendra, nous serons tous les trois là-haut. Sois forte et aie du courage. Encore, je te rappelle les paroles de petit père avant de mourir. Sois forte, maman, et courage. Tu vas être anéantie pour quelque temps, mais en priant, tu seras heureuse. Garde bien ce carnet, et avant de quitter la terre pour toujours, tu le remettras à mon filleul Jeannot, qu'il soit brave et obéissant. Embrasse bien tante, les petits, les grands-parents, et toi, mère chérie, mille baisers, et te retrouver dans la vie éternelle. Ton fils qui t'a toujours aimé, Jeannot. Dis, petite mère, va voir Pauline, elle est ma fiancée. Remets-lui la bague blanche que tu as réservée pour ma fiancée. Elle m'aime. Tu retrouveras une lettre d'elle dans ce carnet. Tu verras que c'est vrai. Fais-lui lire aussi ce carnet, surtout les pages 28, 29, 30.
Quelle est triste la chanson du printemps et des primes verts pour nous autres qui dormons dans les cimetières militaires. Quelle est triste la chanson de l'amour que font les autres quand dans la terre on se vautre une pierre pour plafond, qu'ils sont tristes les trois temps que valsent les amours heureuses. On n'a joué que sans brémeuse au grand bal de nos 20 ans. Quelle est triste la chanson des vieillesses satisfaites pour nous, les jeunes squelettes qui jamais ne vieilliront. L'odeur du chant d'honneur, ça grise en quart d'heure quand on y va baïonnette au canon. Mais quand on dort dedans, mon garçon, ça écœure. Quelle est triste la chanson du succès et du génie. Nous aussi, des théories, des idées, nous en avions. Quelle est triste la chanson des chantiers, des usines, des moteurs et des turbines qui sans nous tournent trop rond. Nous sommes passés d'un coup du porte-plume à l'épée, du collège à la tranchée et de la tranchée au trou. Quelle est triste la chanson que chante par toute la terre ce que nous aurions pu faire et que d'autres font pour nous. L'odeur du chant d'honneur, c'est grise en quart d'heure quand on y va baïonnette au canon. Mais quand on dort dedans, mon garçon, ça écœure. Mais quelle est la chanson, l'âpre chanson de la guerre pour nous autres qui dormons dans les cimetières militaires. Oui, quelle est la chanson de la mitraille et des bombes, chanson des têtes qui tombent, chanson des coups de canon. Ah, quand on l'entend chanter, nous revient assez de vie pour que l'un l'autre on s'écrie. Hé, copains, écoutez, ma parole JD, qu'avant que nos os s'effritent, nous aurons de la visite et que les bleus vont rappliquer. L'odeur du chant d'honneur dans la douce France s'appelait toujours vive la tradition. Dites grand comte Gaston, les pauvres cons, ils recommencent. Thank you.
Thank you.